Bonjour, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur franceinter.fr ou sur l'appli. Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Ours Grognon, mégentil, rédacteur en chef à l'Express. À la une cette semaine de l'Express ?
Je ne sais plus. Ah, Fillon.
Et tous les vendredis, on retrouve votre petite mythologie des objets du quotidien. Cette semaine, un objet vital pour nombre d'entre nous.
Eh oui, un grand chant d'amour au livre, mais je vous rassure, je ne vais pas chanter.
Qu'est-ce que vous avez fait de Guillemette Odissino?
Je l'ai envoyé en Ardèche.
Oui, parce que vous faites de l'ombre, hein, c'est ça. Hein.
C'est ça.
On la retrouve évidemment vendredi prochain.
Moi, j'ai découvert.
C'était quel genre de bouquin? J'ai à peine regardé, il y avait un peu de tout, oui. Des romans, des biographies, des récits de voyage.
Comme d'ordinaire, ouais. Pourquoi lisent-ils? Quelle perversité!
Lire pour le plaisir, lire pour se divertir, lire pour réfléchir, lire pour rêver, lire pour comprendre la condition humaine, lire pour se changer les idées, lire sans rien attendre, lire pour oublier que l'on va mourir, lire pour rire, lire pour pleurer, lire pour se souvenir, lire pour décrypter la société, lire pour se lire soi-même, lire pour le plaisir des mots, lire pour le style de l'auteur, lire sans aucune raison, lire pour se consoler. Bref, nous avons mille raisons de lire et ce matin on s'intéresse à tous ces livres qui peuvent nous aider à vivre. Proust considérait que la lecture possédait des vertus thérapeutiques. Nous nous demanderons ce matin si les livres peuvent être des remèdes en cas de rupture, de deuil, de solitude, d'abandon, de crise du milieu de vie ou encore pour surmonter une maladie. Nous nous demanderons ce qu'est la bibliothérapie, cette thérapie par les livres qui peut parfois détenir des vertus miraculeuses, a priori sans trop d'effets secondaires. Cette émission s'inscrit dans le cadre de l'opération Radio France Fête le Livre, demain et dimanche à la Maison de la Radio. Et vous, dites-nous quels sont les livres qui ont compté dans votre existence au 01 45 24 7000 par mail grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Dites-moi, ce numéro que vous portez, ça veut dire quoi?
Farinat 451.
Pourquoi ce nombre-là plutôt que 813 ou
Farinat
n'importe 451, lequel
451, c'est la température à laquelle les livres s'enflamment et se consument.
Dites-moi, pourquoi brûlez-vous les livres?
Ah, eh bien, c'est un métier excellent, un métier plein de diversité. Le lundi, on brûle Miller, le mardi, Tolstoï, une autre fois Shakespeare, puis c'est Faulkner, et un samedi, ce sera Schopenhauer et Sartre.
Je vois que vous n'aimez pas les livres.
Moi, je dis que les livres n'ont aucun intérêt. Ils se contredisent tous.
Vous ne lisez jamais les livres que vous brûlez.
Pourquoi faire? Premièrement, je n'en vois pas l'utilité. Deuxièmement, je n'ai pas le temps. Et troisièmement, c'est défendu.
Mais pourquoi est-ce que c'est défendu?
Parce que les livres ne font que du mal.
Un extrait de Fahrenheit 451 de François Truffaut, adapté de Ray Bradbury en 1953. Et ce matin, les livres que nous évoquerons ne font pas de mal. Bonjour Colombe Schneck.
Bonjour Ali.
Je suis très ravi de vous recevoir. Vous êtes journaliste, écrivain, réalisatrice de documentaires. Votre tout dernier doc, Les Vieux Amoureux, diffusé sur Arte, était une petite merveille.
Merci.
Vous avez notamment publié Mai 67, consacré à Brigitte Bardot, La Réparation, encore 17 ans. Colombe Schneck, les livres peuvent éventuellement soigner, mais ils peuvent rendre fou. Je pense à ce bon vieux Don Quichotte qui avait trop lu de romans de chevalerie.
Les livres sont dangereux. Lire est dangereux, c'est pour ça que certains veulent les brûler. Je pense que c'est un instrument de liberté qui peut être une grande violence. Oui, lire fait peur à ceux qui ne lisent pas.
Quelle place tient la lecture dans votre vie?
Moi, je dirais que la lecture m'a sauvée. La littérature m'a sauvée de mon enfance, de ma peine de me construire, d'être la personne que je suis aujourd'hui. Une personne m'a donné une grande, grande liberté de penser, d'agir en dehors de ce que j'aurais pu être, de trouver ma place. Oui, je trouve que lire est...
La lecture vous a sauvée?
Oui, la lecture est... je pense que Régine Détambelle sera sûrement d'accord, et Michael Ulraz aussi, qui sont invités aussi ce matin. La lecture est un instrument très, très puissant. Je me souviens que j'avais fait une émission sur France Inter il y a quelques années, j'avais demandé à des invités, quelle est la personne que vous avez permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous a ouvert la porte, qui vous a donné votre chance, qui vous a permis de sortir de ce que vous êtes, de vous trouver votre place. Et tous m'avaient répondu la même chose, quel que soit leur métier, boucher, avocat, c'est la personne qui m'a fait lire. Mon institutrice, ma mère, ma grand-mère, une bibliothécaire. C'est la personne qui vous donne un livre, qui vous encourage, qui vous donne le bon livre, qui va... Je pense qu'en plus qu'il faut lire que des livres qui vous font plaisir, qui vous... Il ne faut jamais lire par obligation, par ennui, et se forcer à lire. C'est la personne qui vous fait lire qui vous permet de devenir ce que vous êtes, ce que vous, vous allez devenir.
Bonjour Régine Détambel.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes écrivain, kinésithérapeute de formation. Vous avez publié « Les livres prennent soin de vous » chez Actes Sud. Alors, dans cet ouvrage, vous défendez l'idée d'une bibliothérapie créative. Alors voici d'abord une définition, parce que j'en ai trouvé aucune, ni dans le Robert, ni dans le Larousse, de la bibliothérapie. Elle est tirée du dictionnaire américain Webster. La bibliothérapie, c'est l'utilisation d'un ensemble de lectures sélectionnées en tant qu'outil thérapeutique, en médecine et en psychiatrie. Et c'est aussi, dit la même définition, un moyen de résoudre des problèmes personnels par l'intermédiaire d'une lecture dirigée. Quelle est votre conception, votre définition de la bibliothérapie, Régine Détambel ?
Ben, pas celle-là, justement.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Lecture dirigée, déjà, ouais. Ça me paraît extrêmement effrayant. Alors, moi, je vais me poser ici plutôt comme soignante, bien sûr, mais surtout comme personne ayant un parcours double, disons. J'ai eu la chance d'avoir un parcours complet, c'est-à-dire d'avoir pu être à la fois soignante, donc kinésithérapeute, mais aussi d'avoir ouvert mon cabinet, finalement, en même temps que je publiais mes premiers livres. Il y a presque 30 ans, j'avais commencé chez Julliard, puis Gallimard, maintenant Actes Sud, voilà, qui a accueilli donc les livres prennent soin de nous. Et j'ai compris assez rapidement dans mon parcours de vie que nous ne sommes rien sans le récit. Et je ne dis pas sans le livre, parce que vous savez, moi, à mon cabinet, et puis ensuite dans les services hospitaliers, j'ai vu que tout le monde n'a pas accès au livre, à l'objet proprement dit. L'objet livre proprement dit, peut justement faire peur, peut justement blesser, peut justement raviver des blessures scolaires, par exemple, ne serait-ce que ça. Et donc moi, j'amène, si vous voulez, comme soignante qui m'adresse à tous les publics, j'amène les personnes vers le texte et vers leur corps par le texte et vers la compréhension d'eux-mêmes par des éléments métaphoriques, poétiques. Je me fous parfois du sens du livre, vous voyez. Pour moi, nous ne sommes pas des documentalistes, Ali. Pour moi, les bibliothérapeutes ne sont pas des documentalistes.
Et d'où l'importance de la lecture à voix haute.
Oui, bien sûr, la lecture à voix haute. Alors, pas seulement, si vous voulez, par des personnes qui vont faire la lecture à des sujets âgés ou à des patients, mais des personnes qui vont amener les autres à lire à haute voix. Imaginez, vous êtes un sujet âgé dans une maison de retraite, pas de récit, rien d'autre que la télé, des choses comme ça, et tout d'un coup, quelqu'un vous amène à dire une phrase. Évidemment, on n'est pas à la Comédie française, hein. On va pas vous faire déclamer des choses, mais quelqu'un qui vous amène à dire une phrase et qui vous amène à faire vibrer en vous le corps, les os de la face, les bronches et tout ça, en disant des mots que vous n'avez plus dit depuis des années.
Régine Détambel, vous défendez l'idée d'une bibliothérapie littéraire assez éloignée d'un biblio-coaching qui puiserait dans les ouvrages de psychologie ou de développement personnel.
Certainement. Alors, je vais vous dire rapidement peut-être pourquoi, parce qu'on pourrait y prendre du temps, mais moi, je pense qu'avec un ouvrage de développement personnel qui réduit la personne finalement à son problème, on bloque les solutions qu'elle pourrait trouver. Maintenant, moi qui suis pas psy, j'arrive auprès d'une personne. Je travaille avec des matériaux de toutes sortes. Je vous ai dit poétique, je vous ai dit avec le corps, on peut marteler un texte, on peut rythmer un texte, il y a un bercement, il y a la voix, etc. Bon, quand on travaille comme ça, on redynamise le psychisme, déjà de manière globale, de manière générale. Et les personnes vont vers leur solution sans qu'on leur dise « Mon pauvre vieux, vous souffrez de ça, vous êtes réduit à ça. » Vous voyez ? Et moi, c'est pour ça que je suis contre le développement personnel. C'est pas créatif, par définition.
Régine Détambel, comme Kolomchnek, la lecture vous a sauvée ?
Ben oui, bien sûr. Je crois qu'il faut l'avoir vécu dans son corps, il faut l'avoir expérimenté. Je suis née à une époque où on n'avait pas de Nintendo, on n'avait rien. J'étais pensionnaire et si j'avais pas creusé mon fort intérieur, je mourrais, quoi.
Bonjour Michael Uras.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes professeur de lettres modernes dans le Doubs.
Oui.
À Montbéliard, c'est ça?
Oui, à côté de Montbéliard. Oui.
Et vous venez de publier Aux petits mots, les grands remèdes chez Prélude. Alors, votre héros, c'est Alex. Il est bibliothérapeute. Il vit à Paris. Il a appris son métier aux États-Unis. Et votre roman raconte ses rapports avec quelques-uns de ses patients.
Oui, tout à fait. Il va rencontrer trois patients alors complètement différents. Un adolescent, handicapé.
Un footballeur,
le meilleur footballeur de France, qui a
beau,
honte,
jeune, intelligent, voilà. Et qui a quand même besoin d'un bibliothérapeute.
Mais qui a honte de lire aussi, il a honte de dire à ses collègues dans le vestiaire qu'il est un lecteur également.
Et puis à Robert
qui est ce quinquagénaire épuisé par la burn-out, voilà, complètement dépassé, qui vient voir le bibliothérapeute pour chercher de l'aide.
Vous êtes prof de lettres. Est-ce que vous concevez parfois votre métier comme thérapeutique auprès de vos élèves?
Honnêtement, absolument pas.
Merci.
Voilà. L'approche des adolescents, l'approche de la littérature par les adolescents est assez difficile. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on impose un texte aux élèves, on a quand même un retour qui est assez difficile. Très souvent, ils voient ça comme quelque chose de, comme une sorte de violence qu'on leur fait, alors que c'est pas du tout l'objectif. Hein.
Et vous vous prenez pas parfois pour le professeur Keating dans le cercle des poètes disparus? Vous avez pas envie parfois de...
On voudrait. Dans la réalité, non, pas vraiment. On serait vite ridicule. J'essaie d'être plus calme tout de même.
Michael Uras, même question. Est-ce que la littérature, les livres vous ont sauvé?
Oui, je pense. Oui, quand j'étais adolescent, j'ai découvert Proust à une période de ma vie où j'étais vraiment très très mal. Voilà, je suis tombé dans la recherche du temps perdu et Proust m'accompagne depuis ce jour.
Ouais. Bonjour Claude d'Antibes.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien. Merci.
Alors, vous vouliez nous parler d'un livre qui a beaucoup compté dans votre vie?
Oui.
Allez-y, dites-nous tout.
Alors, c'est le livre d'Elisabeth Badinter, L'amour en plus.
Et pourquoi?
Parce que je fais partie de la génération avant la pilule. J'ai eu des enfants que je ne désirais pas. J'étais beaucoup trop jeune, j'avais 19 ans. Et j'ai culpabilisé vraiment jusqu'aux années 2000 parce que je n'avais pas cet amour maternel instinctif. Mmh. Et depuis que j'ai lu ce livre, que je sais que ce n'est pas un instinct, j'ai, avec mes enfants, un rapport beaucoup plus décontracté et je n'ai plus ce poids sur le cœur et sur la conscience. Et merci Elisabeth Badinter, parce que vivre avec un sentiment de culpabilité, c'est vraiment très lourd et très, très embarrassant.
L'amour en plus d'Elisabeth Badinter qui vous a beaucoup aidé, Claude d'Antibes. Merci beaucoup d'avoir appelé. Et vous, dites-nous quels sont les livres qui vous ont aidé dans votre existence au 01 45 24 7000 par mail grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Une émission préparée par Alexia Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Théo Denmat et c'est réalisé par Jérôme Bille.
À lire et BI sur France Inter.
Excitement, c'est une nouveauté.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h21, et à l'occasion de l'opération Radio France Fête le Livre, on s'intéresse ce matin à ces livres qui peuvent nous aider dans notre existence, avec les écrivains Colomb Schneck, Régine de Tambel et Michael Uras, et avec la complicité d'Éric Libiot de L'Express.
À mon avis, c'est le livre qui m'a carrément bouleversé, qui a changé ma vie, c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas.
Mais en tout cas, c'est un roman qui m'a poursuivi toute ma vie, pour vous dire que j'utilise souvent Dantès en mot de passe.
Et c'est un livre que j'ai relu plusieurs fois au cours de mon existence, et qui m'a à chaque fois permis de mieux comprendre l'être humain.
Qui m'aide à vivre, non, mais qui a changé mon existence et qui a permis de me passionner pour certaines choses, on va dire, peut-être Bilbo le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux à une époque.
Et puis évidemment, il y a aussi un autre roman qui reste toujours un enchantement pour moi, c'est Le Petit Prince, qui accompagnera ma vie, je crois, jusqu'à la fin.
Moi, j'ai appris beaucoup plus avec le personnage de Raskolnikov sur la personnalité et sur la psychologie humaine qu'avec des traités théoriques de grands professeurs universitaires.
Il y a un terme, c'est apprivoiser. Et ben, ce terme-là, je l'ai découvert dans le roman. J'ai appris ce qu'il voulait dire dans le roman quand j'étais petite.
Je pense que tous les adultes devraient le lire de temps en temps. C'est une excellente thérapie.
Propos recueillis hier dans les rues de Paris. Colomb Schneck, parmi les nombreux livres qui vous ont aidé à vivre, eh bien, il y a Passion simple d'Annie Ernaux, publié en 1991 et disponible chez Folio. Pourquoi Passion simple?
Passion simple, c'est un récit d'Annie Ernaux. On le raconte passion amoureuse pour un diplomate soviétique. Elle l'aime, elle passe un an à attendre cet homme qui ne l'aime pas. Cette situation de difficulté amoureuse, c'est juste que j'ai longtemps vécu. Heureusement, c'est terminé. Et à la fin de ce livre, c'est un livre que je relis régulièrement. Et à la fin, toute fin du livre, il y a quelques phrases que je connais par cœur, mais je les ai retrouvées parce que je ne veux pas me tromper. Je vais vous les lire. Elle écrit : quand j'étais enfant, le luxe, c'était pour moi les manteaux de fourrure, les robes longues et les villas au bord de la mer. Plus tard, j'ai cru que c'était mener une vie intellectuelle. Il me semble maintenant que c'est aussi de pouvoir vivre une passion pour un homme ou une femme. Elle écrit donc que pour elle, le luxe, c'est d'aimer. Ça m'a porté pendant très longtemps. Mmh. Voilà. Ça m'a permis de survivre à beaucoup de choses, de difficultés. Et puis pour moi, Annie Ernaux, c'est un de mes grands écrivains auxquels je me suis retrouvée. C'est drôle.
C'est l'un des plus grands écrivains vivants
français. C'est quelqu'un qui... Moi, je viens d'une famille assez bourgeoise. J'ai souvent raconté dans mes livres. J'ai été élevée à Paris dans une famille intellectuelle de la rive gauche, donc de façon très privilégiée. Mais quand je lis Annie Ernaux, qui a une éducation très éloignée de la mienne, une famille très modeste, ses parents tenaient un petit café en Normandie dans un tout petit village, je me sens très proche d'elle. Quand je la lis, j'ai l'impression de me lire. Et c'est ce qu'il y a de magnifique dans la littérature, c'est ce lien très fort avec des gens qui pourraient être très éloignés. Il y a un petit passage dans le dernier Houellebecq que j'ai beaucoup aimé, où il dit, il parle de la musique, de la peinture, etc. Mais il dit, seule la littérature vous permet d'être en contact directement avec un autre être humain qui aurait pu vivre 3 siècles avant. Voilà. Mais il y a ce lien humain qui est extrêmement fort dans la littérature et qu'on trouve nulle part ailleurs.
Johan nous dit par mail, Le Loup des Steppes est l'un de mes romans préférés. Pour la première fois, j'ai senti dans les mots d'un autre les tourments et les questions que je me pose, cette dualité entre le besoin de s'intégrer dans la société et l'envie d'une vie primaire quasi animale, solitaire. Le parcours initiatique du personnage m'a marqué, les mots aussi. Michael Uras, parmi les livres qui ont compté dans votre vie, c'est un choix évidemment difficile, mais vous avez choisi À la recherche du temps perdu, d'un écrivain très prometteur.
Oui, alors Proust a beaucoup compté pour moi, mais je pense qu'il compte pour énormément.
Pourquoi il a compté pour vous?
Pourquoi il a compté, je le disais tout à l'heure, et lors de mon adolescence, j'ai eu une période difficile, un passage très difficile, où j'ai dû rester chez moi de longs mois. Et comme souvent, quand on est alité, eh bien, on lit Proust. On dit souvent qu'on lit Proust parce qu'on est à l'hôpital, hein. En général, on est adulte. Voilà. Donc j'ai vécu cette expérience proustienne. Alors j'étais adolescent, c'était difficile parce que les mots étaient difficiles, parce que la société décrite était surannée, des marquis, des marquises, voilà. Et puis, comme on le disait à l'instant, il y a un côté magique dans la littérature, c'est-à-dire que Proust m'a parlé. Voilà, Proust m'a parlé à l'oreille.
Au creux de l'oreille.
Voilà, alors qu'il était mort depuis 1922.
Régine de Tambel, chez vous, la poésie joue un rôle important. La poésie d'André Chédid, de René Char, de Christian Bobin et de tant d'autres. Mais c'est surtout la poésie lue à voix haute.
Oui, toujours, toujours, avec cette idée du bercement, de quelque chose de rythmique qui nous ramène finalement à ce que la littérature contient d'oralité et dont on ne tient plus compte. Parce que finalement, les bouquins sont écrits, finalement, peut-être du bout des doigts sur les claviers, ou voilà, et le corps, tout le corps est contenu encore vraiment dans la poésie. Mais je voudrais dire à propos de ces littératures d'alitement dont parlait Michael Uras, qu'il faut voir par exemple comment Thomas Bernhardt dit que sur son lit d'hôpital, il s'est soigné avec Dostoïevski, avec les démons, les possédés, enfin selon la traduction qu'on a en français, les démons ou les possédés de Dostoïevski, et ça secoue et ça fait du bien. Et pour moi qui suis une femme et qui déteste la misogynie, lire Thomas Bernhardt, et ben je peux vous dire, ça secoue, ça réveille, ça fait un bien incroyable. Donc attention aux livres remèdes, des choses comme ça. Les bouquins qui secouent, c'est pas mal non plus.
De nombreux écrivains ont associé la littérature aux soins. Je pense à Le Clésio qui écrivait « Un jour, on saura peut-être qu'il n'y avait pas d'art, mais seulement de la médecine. » Ah, oui. Ou Camus, que vous citez dans votre ouvrage, pour qui la littérature est un art de vivre partant de catastrophes.
Voilà, c'est magnifique. C'est une phrase de son discours de réception au Nobel. C'est ça, c'est vrai, la littérature.
Michael Uras, ça vous parle?
Oui.
Le temps de catastrophe. Par exemple, par le rire. Schneck. Par exemple, je me souviens d'avoir lu Portnoy et son complexe de Philip Roth, adolescente, et d'avoir éclaté de rire, mais rire, je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Je sais pas si vous, et je pense que le rire est quand même une excellente médecine. Je ne sais pas si vous vous souvenez du début du livre où le narrateur, qui s'appelle Alexandre, se masturbe dans les toilettes et sa mère veut rentrer pour vérifier est-ce qu'il serait constipé. Mais moi,
C'est l'obsession de sa mère.
Oui, voilà. Est-ce qu'il est constipé? Est-ce qu'il va bien aux toilettes, etc.? Quel est son transit? Et je crois que je pensais pas que la littérature, ça pouvait être ça. Ça pouvait être problème de transit et de constipation et pouvoir rire autant en lisant qu'en lisant.
Il n'y a pas que ça dans Portnoy et son
complexe. Oui, mais il y a aussi ce rire. Voilà.
Alors, le rire, le transit, donc le corps, donc je me sens concernée. Mais il y a quelque chose qu'on vient de découvrir. Vous savez, avant on disait la littérature c'est pour les paresseux, tu liras quand t'auras fini ton boulot, etc. Et on vient de découvrir qu'à l'IRM, à l'IRM du cerveau, quand vous lisez un verbe d'action, ça allume les aires motrices cérébrales pour correspondantes, les aires motrices, pas les aires du langage, les machins. Je veux dire, ça fait bouger vos muscles. Donc, vous imaginez votre footballeur, Michael Uras. Voilà. Mais il faut qu'il lise ce type. Il faut absolument qu'il lise. Ça l'aide à câbler.
C'est la tête et les jambes.
Absolument. Voilà, c'est ça.
Éric Liviaud, je m'adresse au rédacteur des pages culture de l'Express. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que la lecture puisse détenir des vertus thérapeutiques, qu'il existerait des remèdes de littéraires, pour reprendre le titre de l'excellent livre d'Ella Bertu et Suzanne Elderkin?
Oui, sans doute. D'abord, moi, je pense que la culture en général aide à regarder le monde différemment, et la littérature aussi. Je pense que, je ne sais pas si ça a des vertus thérapeutiques. En tout cas, ça aide à ouvrir les yeux, ça aide à être curieux, ça fait rire, ça fait pleurer. Je pense que c'est le rapport au monde que la littérature peut changer, pas forcément guérir.
Il y a des livres qui vous ont aidé à vivre, qui vous ont accompagné tout au long de votre existence.
Le premier grand choc littéraire, c'était Les Cavaliers de Kessel, parce que j'ai compris là la puissance de l'imaginaire. Et puis celui que je garde, pour lequel je garde une affection particulière, c'est La Vie mode d'emploi de Pérec.
Ah bah oui.
Parce que justement, c'était à la fois la puissance du romanesque, il y a 300 000 histoires dans ce bouquin, et en même temps l'espèce de jeu littéraire de Pérec qui consistait, avec ses contraintes, à aller contre l'imaginaire. Et c'est à chaque fois la médaille et son revers, le yin et le yang, la lumière et l'ombre, et tous ces jeux m'amusent beaucoup et m'aident beaucoup aussi.
Bonjour Annie, des Pyrénées-Orientales.
Oui.
Vous appelez d'où?
Du pays catalan, je dirais. Pas des Pyrénées-Orientales. Du pays catalan.
C'est ce que j'avais dans ma fiche.
Eh bien oui, voilà.
Alors dites-nous tout.
C'est à côté, j'habite à Prades, donc entre mer et montagne.
Alors quel est le livre qui a compté dans votre existence?
Il n'y a pas un livre, il y a des livres. Mais le premier qui m'a accompagnée à un moment, je dirais, de fragilité, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, de fragilité, c'est Désert, de Le Clésio. Et il m'a permis, au travers du cheminement de ce peuple qui avançait dans le désert, d'avancer pas à pas, avec lui, avec eux. Chaque pierre était à sa place dans le chemin. Le chemin était balisé, entre guillemets. Et il était d'une justesse et d'une vérité qui me permettait en même temps d'avancer. C'est toujours comme ça un bouquin. Un bouquin arrive au moment, à un certain moment, et il a des résonances ou pas avec nous. Il nous est proche, comme un ami ou pas, et en même temps, il nous apporte des choses différentes. Et ce que je trouve dans les livres, c'est qu'il me j'appelle ça mes compagnons de route. Ils me raccrochent au monde, et qu'on soit du sud, du midi, du nord, de n'importe où, et de tous les temps. Alors on voyage dans les temps, on voyage dans le temps, et dans tous les temps. Dans tous les temps, grammatical, et dans tous les temps. Et c'est le livre, c'est immense. Ça contient absolument tout ça.
C'est très beau ce que vous dites, Annie, des Pyrénées orientales. Et en même temps, les mots. Allez-y, terminez, allez-y.
Les mots, pour moi, les mots, je fais de la musique aussi. Et des mots, c'est de la musique. Et à un moment donné, les livres, les mots, sont de la musique qui nous rattache les uns aux autres et qui nous font découvrir des musiques différentes, des couleurs différentes. Par exemple, moi, je parle catalan et il y a aussi des poèmes en catalan de Jordi Pere Cerdà qui sont extraordinaires. J'ai lu aussi, et j'adore, Monté d'Idio, d'Éric et Lucas, que je rapproche d'autres choses, de Ken Loach, par exemple, des films de Ken Loach. Et là aussi, on ouvre sur le monde par des problématiques sociales, par des problématiques de vérité.
Merci beaucoup, Annie. Il y a nos invités qui piaffent d'impatience pour vous répondre. Merci beaucoup, Annie, d'avoir appelé de Prades, Régine de Tambel.
Oui, moi, je voulais revenir sur quelque chose qui avait été dit à propos du mot guérison, etc. Je crois qu'il faut vraiment qu'on clarifie la terminologie,
bien sûr.
C'est extrêmement dangereux, sinon. Voilà, je crois qu'à mon sens, ce que le livre soigne au sens de soin, et soin au sens large, au sens de care, on est d'accord, pas to cure, c'est to care. Prendre soin de la subjectivité de la personne. Bon. Je crois que tous les livres sont des soins, que la littérature est en elle-même un soin, comme vous disiez de Le Clésio, et que la littérature soigne la maladie humaine, le tragique inhérent à la vie, le deuil, la rupture, la maladie, c'est la vie humaine. Et on ne dit pas autre chose.
Et vous écrivez, Régine de Tambel, que certaines lectures raniment, vous écrivez que le livre peut permettre de descendre en soi-même, de restaurer son fort intérieur, de relancer le désir en soi.
Tout simplement.
Michael Uras.
Ce que je dirais suite à ce que vient de dire l'auditrice, c'est, puisqu'on dit depuis le début de l'émission, c'est qu'il y a toute une magie autour du livre qui est assez réconfortante pour l'écrivain que je suis, mais aussi pour le professeur de lettres que je suis. Et je trouve ça assez incroyable, voilà.
Colomb Schneck.
Oui, j'aimais beaucoup quand elle disait que les livres sont des amis.
Des compagnons de route.
Oui. On n'est jamais seul quand on lit. On a quelqu'un à côté de soi qui vous écoute, qui vous comprend, qui vous partage votre peine, vos joies. J'ai amené un dernier livre d'un écrivain allemand qui s'appelle Sebald. Sebald est né juste après la guerre en Allemagne. Son père était officier de la Wehrmacht. Il avait une espèce de dégoût pour l'Allemagne nazie, pour la vie de ses parents, pour la culture dont il venait. Il se dit qu'il se définissait comme un produit du fascisme, une espèce de grande dépression, lui, une grande tristesse. Il est parti vivre en Grande-Bretagne, où il était professeur de littérature. Et il a beaucoup écrit sur des personnages d'exil.
Qu'est-ce que vous avez amené, là?
Alors, j'ai amené un livre qui s'appelle Les Émigrants, où il fait le récit de 4 personnages qui sont partis. Ils ont dû partir, ils ont dû fuir, ils ont une vie détruite. Et il y a des passages magnifiques dans le livre. Est-ce que je peux lire peut-être un extrait très très court?
Allez-y.
Par exemple, le premier personnage a un jardin. Et il se retrouve dans ce jardin magnifique alors qu'il n'a plus rien. Sa vie est détruite. On ne sait pas ce qu'il est de son passé. Nous passâmes entre une butte d'asperges montées en graines dont le feuillage nous arrivait à hauteur d'épaule et une rangée de vigoureux puis d'artichauts pour arriver près d'un boqueteau de pommiers où pendait une multitude de fruits jaunes et rouges. Le Dr Selwyn pris une douzaine de ces fruits sortis d'un conte de fées dont la saveur supplantait effectivement tout ce que j'avais pu goûter jusqu'alors et les déposa sur une feuille de rhubarbe pour les offrir en cadeau à Claire, précisant que la variété portait judicieusement le nom de Beauty of Bath. Voilà, il n'a plus rien, mais il reste cette beauté.
Rappelez le titre.
Si les immigrants de Sebald, c'est un grand, grand livre.
Régine de Tambel.
Juste en deux mots, puisqu'il est question des migrants, et puisque tout à l'heure, la dame de Prades parlait de la poésie catalane, le bilinguisme, les autres langues, tout ce qu'on peut entendre lire dans la langue de l'autre, même si on ne la comprend pas, c'est pour moi déjà de la bibliothérapie. C'est cette musicalité, ce bercement, ce rythme de la voix humaine qui déjà nous remet en phase, nous rappelle finalement l'enfance, les choses qu'on entendait des voix autour de nous sans comprendre les mots. Et ça, c'est aussi de la bibliothérapie.
Allez, n'hésitez pas à nous dire quels sont les livres qui ont compté dans votre existence au 01 45 24 7000, par mail grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook. À suivre la fausse pub du vendredi de François Audouin.
Mon corps s'endort, mon amour, j'appelle tes mains. Alors parcours, mon corps se griffe, mon amour, sais-tu le risque qu'il encourt? Mon corps s'éteint, mon amour, il ne vaut rien sans ton secours. Mon corps est atone, mon amour, et je sens poindre un non-retour. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravoure. Mon corps s'engourdit, mon amour, j'appelle tes sens en dernier recours. Pas un credo plus que l'envie, je baise donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Quand l'un est soigné, l'autre retrouve la flamme. Mon corps expire, mon amour, tes yeux se ferment sur ses atomes. Mon corps disparaît, mon amour, je suis fini sans ton concours. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravoure. Mon corps se meurt, mon amour, car face à lui le tien reste sourd. Pas un credo plus que l'envie, je baise donc je suis. Ça réveille mon cœur quand il s'est assoupi. Je me fous qu'on me blâme, c'est ainsi que je suis. Rien ne dissocie mes chairs et mon âme. Quand l'un est soigné, l'autre retrouve la flamme. Mon corps se console, mon amour, il reprend vie contre un autre velours. Mon corps me guérit, mon amour, j'aime quand il vibre sans détour. Sa vie me ranime, mon amour, je cours au dehors revoir le jour. Sa vie me ranime, mon amour, je cours au dehors revoir le jour. Mon corps s'endort, mon amour, j'appelle tes mains. À leur parcours, mon corps se griffe, mon amour, sais-tu le risque qu'il encourt? Mon corps est atone, mon amour, et je sens poindre un non-retour. Mon corps s'éteint, mon amour, il ne vaut rien sans ton secours.
Olivia Ruiz, mon corps, mon amour.
Ali Rebéi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
C'est quoi? C'est bizarre comme matière. Et c'est carré. Oh, il y a plein de papier à l'intérieur. C'est un radio-réveil connecté?
Non, monsieur. C'est un livre. Et ça peut vous rendre plus intelligent. Attention, le livre est une espèce protégée en voie d'extinction. Si nous ne faisons rien et continuons à regarder les émissions pleines de profondeur de Cyril Hanouna, dans 5 ans, ils auront totalement disparu.
Mais dites donc, il y a 70 pages. Faut lire tout ça pour connaître l'histoire.
Eh oui, du con. C'est autre chose que tes vidéos de 30 secondes sur Internet.
Il n'y a pas moyen d'avoir la série sur Netflix.
Oh putain. C'était un message du Conservatoire des livres en voie d'extinction en partenariat avec la prévention psychologique.
La fausse pub de François Audouin avec la voix de l'auteur et Eric Oswald de 10h40 et à l'occasion de l'opération Radio France Fête le Livre. On s'intéresse à tous ces livres qui peuvent nous aider dans notre existence avec les écrivains Colomb Schneck, Régine de Tambel et Michael Uras, avec la complicité d'Éric Lébiot de L'Express. Rassurez-moi, ce n'est pas un objet en voie d'extinction, le livre Colomb Schneck.
Je vois qu'Éric Lébiot est plongé dans le séval que j'ai apporté les immigrants, non? Non, je crois pas du tout. Il y a une interview assez drôle de Marguerite Duras qui date des années 80 par Drucker, que vous pouvez retrouver sur Internet. Et elle dit les gens vont être dans une espèce de moment comme ça, où ils vont passer leur temps à chercher des informations, à avoir des réponses à des questions, à aller très vite. Mais à un moment, le livre à venir. Voilà. Elle prévoyait l'internet et le retour du livre, parce qu'on a besoin, de livres pour vivre.
Comme un refuge, oui, finalement. Ouais. On y revient.
Régine de Tambel.
Alors moi, j'ai quand même à dire quelque chose de grave, je trouve.
Allez-y, Régine de Tambel.
si, vraiment grave. De grave. Parce que depuis que j'ai publié, donc les livres prennent soin de nous, j'ai beaucoup de soignants qui viennent vers moi en me disant, bah voilà, il faut mettre du récit en milieu hospitalier. Là, je vais être à la Salpêtrière dans quelques mois pour parler en soins palliatifs de l'importance de remettre du récit, des livres, des lectures, du récit de soi, etc. En maison de retraite, comme je disais tout à l'heure. Et puis, parallèlement, j'ai des bibliothécaires, des libraires qui viennent vers moi et qui me disent, nous, on se rend compte que le geste commercial, ça suffit pas et on voudrait être dans les danses, on voudrait fédérer les personnes autour de nous et leur faire passer autrement le livre. Voilà. Donc moi, je me retrouve à former ces personnes-là et c'est absolument extraordinaire. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a presque une honte de dire qu'on a besoin des livres et on ne sait pas comment s'en servir.
Éric Libio.
Oui, moi, ce que j'aime par rapport à ce que vous disiez, c'est le rapport au temps. J'ai l'impression que quand on lit, on se réapproprie le temps, alors que en général, on est dans un temps où ça va vite, le monde, le temps nous est imposé. Et là, tout d'un coup, on revient à un rapport intime avec le temps où on s'installe. C'est nous qui imposons comme ça le rapport à son propre soi.
Absolument.
Et ça, je trouve ça assez magnifique.
Le livre, c'est pas le temps social, le livre c'est le temps intérieur. Paul Ricoeur l'a dit, hein, temps et récit. Et surtout, l'ordre du récit, ça vient contre le chaos de la vie en vous. Il y a tout d'un coup quelque chose qui se remet en place. La dame de Prades qui avait parlé de la grammaire, des temps grammaticaux, ne disait pas autre chose, je crois, que cela. Hein, ce fait que on revit. Et vous savez, moi, en maison de retraite, je dis aux animateurs, arrêtez de leur parler au passé. Faites-les parler au futur, de l'indicatif. Tout le monde vit aujourd'hui et demain, peut se projeter demain.
Eh oui, c'est la vie.
Oui, mais ce qui me rend triste, c'est que la vie et le roman, c'est différent. Je voudrais que ce soit pareil. Clair, logique, organisé. Mais ça ne l'est pas.
Si, beaucoup plus que les gens ne le croient.
Non, Pierrot.
Total.
C'était un film d'aventure.
Diadème de sang.
Total.
Tendre et la nuit.
C'était un roman d'amour. C'était un roman d'amour.
Tendre et la nuit.
C'était un roman d'amour.
Et vous, autour de la table, ça vous rend triste que la vie et le roman se soient différents, comme le dit le personnage d'Anna Karenine dans Pierrot le fou de Godard, Michael Uras?
Ah, ça peut rendre triste, mais la vie est différente.
Anna Karenina, j'ai dit Anna Karenine, en plus, vous avez vu que je suis complètement lapsus révélateur. Anna Karenina, évidemment.
Là, je suis pas d'accord. Je pense que la vie et le roman parfois se rejoignent. Il y a des moments où la vie rejoint le roman, où le roman rejoint la vie, comme ça, de façon, comme espèce de vague, et on a le sentiment de vivre, dans un roman, ou de trouver une plénitude qui est celle d'un roman, ou au contraire, quand on a la lecture d'un roman, de retrouver des choses très précises de sa vie. La vie dans les romans n'est pas aussi claire. Il y a aussi le chaos, on parlait de Sovietski tout à l'heure.
Régine de Tombelle.
Oui, moi j'ai envie de dire, moi je suis l'inverse, c'est-à-dire que moi il y a des choses que je ne verrais pas dans ma vie si je ne les avais pas auparavant lues. Mais je voudrais dire qu'il y a un très beau livre de Nancy Houston qui s'appelle « L'espèce fabulatrice » et dans lequel elle dit très justement que nous croyons vivre dans la vie réelle, mais personne ne vit jamais dans le réel. Nous sommes des êtres de langage, nous sommes des êtres symboliques. Notre drapeau, nos religions, tout, ce sont des histoires, ce sont des récits. Et pour faire bouger l'humain, il faut faire bouger les récits. Comme on a vu, faire bouger la norme, c'est d'abord faire bouger les représentations culturelles, donc les histoires qui sont dites sur les choses et sur les gens.
Michael Uras, je rappelle que vous venez de publier aux petits mots les grands remèdes. Alors, je rappelle qu'Alex, votre héros, est bibliothérapeute. Il vient en aide notamment à trois patients. Alors, Yann, l'adolescent, Anthony, la vedette de foot, et Robert, dans la force de l'âge, dépassé, épuisé par son travail. Alors, que prescrit Alex, votre bibliothérapeute, à Yann? Yann B, l'adolescent, indifférent au monde extérieur.
Alors, il va lui prescrire deux textes, et en particulier, qui s'appelle Thomas l'imposteur de Cocteau. Voilà, qui est un roman sur le mensonge. C'est le roman du mensonge, un personnage qui s'invente une vie rêvée et qui pousse le mensonge jusqu'à son absolu, puisque même juste avant de mourir, il se dit « je vais faire semblant de mourir pour m'en sortir. Et en fait, il fait pas semblant de mourir, il meurt.
Et lui conseille également L'attrape-cœur de Salinger. L'attrape-cœur
de Salinger, qui est le livre pour les adolescents. C'est ce qu'on...
Pourquoi?
Parce que Salinger a réussi à se mettre à la place justement d'un adolescent. Et la narration à la première personne, les tics de langage aussi sont parfaits. Les situations sont parfaites pour un adolescent. Même si le texte date un peu maintenant, il est encore très très actuel.
Alors que conseille votre bibliothérapeute à Robert Chapman, épuisé par la vie?
Alors justement, alors là j'ai pris un texte qui est à l'opposé de Chapman. Il lui conseille Oblomov
de Goncharov.
Voilà. Donc l'histoire de ce personnage, ce propriétaire terrien russe qui vit dans son divan toute la journée en robe de chambre et qui ne fait rien. Voilà. Donc c'était pour moi un contrepoint parfait pour calmer Chapman.
Alors Anthony Paulstra, c'est un footballeur riche, beau, célèbre, en bonne santé. Alors pourquoi il vient consulter un bibliothérapeute? Il a tout pour lui a priori.
Il a tout pour lui, mais justement il a trop tout pour lui. Pour paraphraser une phrase d'un film de Cédric Clapiche, il a trop tout. Voilà, il a trop tout pour lui et il craque complètement d'être hyper médiatisé, d'être montré tout le temps, regardé tout le temps. Et il va voir le bibliothérapeute pour justement faire un travail sur lui, voilà, pour reprendre un petit peu pied dans sa vie. Et on va lui conseiller l'Odyssée d'Homère. Alors là encore un texte qui est aux antipodes de ce qu'on pourrait proposer à un footballeur. On a l'image du footballeur un petit peu ignare hein, souvent. Et là, Paulstra va découvrir que Ulysse, le héros, puisque Paulstra c'est un héros moderne finalement, il va découvrir que Ulysse avait les mêmes problèmes que lui, quelques siècles auparavant.
Et lui conseille également de lire des romans de chevalerie, hein, notamment de Walter Scott.
Voilà, tout à fait, comme Madame Bovary.
Bonjour Elisa, comment allez-vous?
Oui, bonjour, ça va très bien, merci.
Vous appelez d'où en Alsace?
D'un petit village perdu dans la montagne, à une demi-heure de Strasbourg.
Bon, bah écoutez, ça donne envie. Hein. Alors, quel est le livre qui a compté dans votre existence, Elisa?
Alors moi, c'est plusieurs livres, mais c'est essentiellement La recherche du temps perdu de Marcel Proust. J'entendais votre intervenant qui en parlait aussi tout à l'heure. C'est vraiment un livre, je trouve, qui peut nous suivre tout au long de notre vie, en fait. Puisque moi, c'est mes parents qui m'ont mis le nez dedans quand j'avais 15 ans. Je l'ai étudié quand j'avais 18 ans au début de mes études. Donc j'ai mis plus de 10 ans à réussir à lire cette recherche du temps perdu en entier, puisque c'est très long. Et donc ça a été un grand moment pour moi quand je suis arrivée au bout, à la autant retrouvée. Et finalement, mes parents, mon père en particulier, me disaient que lui, il le lisait régulièrement, le relisait. Et j'ai commencé à faire la même chose. C'est-à-dire que là, récemment, je l'ai repris et je vais mettre des années avant de le terminer à nouveau. Mais il m'accompagne, il est sur ma table de nuit, il me suit et de temps en temps entre différents livres. Je reviens à quelque chose de connu et puis qui ne s'épuise jamais tellement le texte est riche et beau et prenant.
Et merci beaucoup Elisa pour votre beau conseil, La recherche du temps perdu de Proust, Michael Uras.
Ah Elisa, nous avons le même parcours, absolument le même parcours. J'ai découvert Proust à 15 ans également. Donc oui, effectivement, le texte est inépuisable.
Umberto Eco, merci beaucoup hein, Elisa d'avoir appelé d'Alsace. Umberto Eco disait que celui qui ne lit pas aura vécu une seule vie, celui qui lit aura vécu 5000 ans. La lecture est une immortalité en sens inverse. J'imagine qu'autour de la table, vous souscrivez à notre Umberto Eco.
Et oui, c'est l'oralité dont je parlais tout à l'heure qui est présente encore dans les livres que nous écrivons aujourd'hui. Et c'est vrai que la langue, c'est la langue qui travaille en nous, qui travaille à travers nous. C'est l'énergie de la langue. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Bien au-delà du sens de nos petits livres, etc., il y a l'énergie de la langue qui nous traverse.
Oui, je voudrais revenir à Proust, mais souci est un moyen de parler d'immortalité, puisque quand on lit Proust, on a l'impression qu'il est toujours là avec nous, immortel. Il ne faut pas être impressionné justement par le côté marquise, parce qu'au contraire, il va parler de choses, il va parler de nos mauvaises pensées, il va raconter ce qu'on n'ose dire à personne sur nos jalousies. Par exemple, quand il dit qu'il est très difficile quand on est amoureux de quelqu'un de supporter que cette personne puisse être heureuse sans nous et va à une fête et puisse s'amuser. C'est quelque chose qu'on peut pas s'avouer, qu'on nous a avoué à personne et qu'il va nous permettre de se dire. Il raconte toutes ces petites choses Oui, sur quotidienne finalement, sur nos sentiments, nos émotions. Et là, il y a pas, c'est pas, on n'est pas dans les Marquises, on est dans notre intimité et il la raconte, il se raconte tel que nous sommes. Et je crois que c'est pour ça qu'on est, on s'en si proche de Proust et qu'il peut vous accompagner. C'est pas parce qu'on est chez les Chevaliers et les Marquises, c'est au contraire parce qu'on est notre intimité, notre petit, nos petits. Nos défauts et nos petits, ouais, nos mauvaises pensées,
on,
voilà.
On devient tous le narrateur de à la recherche du temps perdu, hein.
Et puis aussi, que ce soit chez Proust ou dans d'innombrables romans, il y a évidemment les personnages. Régine de Tombelle, Virginia Woolf disaient que sans les personnages, la vie était sèche comme un os.
Bien sûr, bien sûr. Alors les personnages, tout ce qu'on peut avoir d'empathie, nous lecteurs, tout ce qu'on peut faire comme identification, comme
aux émotions, Colomb, leurs conflits, voilà, aux éthiques.
Bien sûr, mais il y a vraiment quelque chose, moi, qui m'a frappé, c'est la phrase du début d'émission, la phrase de Fahrenheit 451. Les livres, ils se contredisent tous. Voilà. Et c'est ça, vrai. Mais justement, c'est contre la pensée unique que toutes ces petites émotions de Proust, du baiser du soir, de la jalousie. Il n'y a pas une vérité sur l'être. Chacun de nous vit sa vie. Hélas, on se rencontre rarement, mais peut-être au travers des livres.
Livre, on se retrouve, on se rencontre de façon très exacte dans un livre. C'est ça qui...
Et j'aimerais terminer avec Patricia Martin, hein, qui, je sais pas si c'est notre Patricia Martin. Je ne sais pas si c'est notre Patricia Martin à France Inter, mais elle nous dit que le livre m'accompagne depuis toujours, depuis que je sais lire. Il est mon doudou. Je ne peux pas, écrit-elle en lettres capitales, je ne peux pas m'endormir sans lire, que je me couche à 10h ou à 5h du matin. C'est vraiment un objet transitionnel entre la journée et mes nuits. J'ai 48 ans. Si je devais choisir un livre, je ne pourrais pas. Ce que je suis grâce à tous les livres que j'ai lus. Voilà, merci beaucoup Patricia Martin de France Inter ou d'ailleurs. À suivre la petite mythologie des objets du quotidien de notre ours grognon préféré Éric Libio de l'Express.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebi.
There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will last. Nobody of it is worth.
Jimi Hendrix sur France Inter. Et comme tous les vendredis, il est temps de retrouver la petite mythologie des objets du quotidien d'Éric Libio, rédacteur en chef de l'Express. Et ce matin, vous avez choisi.
Eh bien oui, Ali, parce que ça fait un moment que je tourne autour du livre pour cette chronique et parce que France Inter lui fait sa fête. Ce week-end, je ne peux plus reculer. Bon, alors vous me direz que c'est pas très fatigant de tourner autour d'un livre. Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, un livre prend toutes les formes, tous les formats, toutes les matières, toutes les couleurs. Pierre Perret aurait presque plus le chanter, tout. Vous saurez tout sur le livre, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, l'impulsif et celui qui tombe sur les godasses. Mais le livre n'a pas de sexe apparemment. Enfin, cela dit, il y a un rapport sensuel à l'objet livre. On le caresse, on le respire, on le touche, on l'ouvre, on le retourne, on le commence par la fin, on l'effeuille. Un livre, c'est intimidant, c'est enthousiasmant, c'est un uppercut ou un baiser. Il est à la fois sacré et profane, démocratique et élitiste. C'est Jim Thompson et Jean-François Granger, Montaigne et Paolo Coelho, Raymond Queneau et Marc Lévy, Toni Morrison et Mary Higgins Clark, Echnoz et Verber. Alors si vous voulez, vous pouvez chercher Les Intrus. Le livre, c'est une promesse de voyage, géographique, intellectuel, sensoriel. Le livre, on l'emporte avec soi, on le met dans la poche, dans un sac, il dort à côté de soi, il s'expose dans la bibliothèque, il attend sagement aux toilettes, il se vole, s'achète, se prête. Il se laisse sur un banc ou dans un train, il se lance à la figure, il rend fou, il excite et il amuse. Le livre, c'est mon meilleur ami. Je peux l'embrasser et l'engueuler, ne pas le regarder pendant une semaine et passer une journée entière avec lui. Il m'aide à faire la cuisine et à comprendre le monde, à rire avec des amis ou à pleurer tout seul ou bien le contraire. Je le retrouve régulièrement, il n'a pas changé, il me déçoit parfois quand je le revois, mais c'est peut-être moi qui ai changé finalement. Alors moi j'aime les petites tailles, j'aime le livre de poche, parce qu'il est égal aux autres. Dans le grand format, ça se bataille, ça se dimensionne différemment, alors que le livre de poche, c'est d'humeur égale, chacun au même niveau. Thompson et Granger, Montaigne et Coelho, Queneau et Lévy, Morrison et Higgins Clark, Echnoz et Verber. Comment ça, Queneau et Lévy au même niveau? Ah, alors, vu comme ça, évidemment, ça va pas. Bon, alors finalement, je préfère le grand format. Que chacun soit singulier, le livre a son caractère, sa personnalité, sa couleur de peau, son poids, sa taille. Oui, mais le poche, ça se range bien dans une bibliothèque, ça ne dépasse pas d'une tête, ça fait collègue unique. Chacun a sa chance d'être choisi, un peu comme les futurs candidats de la primaire à gauche. Et puis non, le grand format, c'est mieux finalement. Les livres se tirent un peu la bourre, ils se pavanent en devanture, jouent les têtes de gondole, se poussent de la tranche, un peu comme une primaire à droite. C'est compliqué d'aimer un livre, hein. Il faut les aimer tous, Thompson et Granger, Montaigne et Paolo Coelho, Queneau et Lévy, Morrison et Higgins Clark, Echnoz et Verber. Oui, bon, alors c'est un peu vrai, c'est compliqué d'aimer tout cela quand même. Bon, ça m'embête pas finalement si certains préfèrent Granger à Thompson, Coelho à Montaigne, Higgins Clark à Morrison. En fait, si, ça m'embête un peu quand même. En fait, ça m'énerve beaucoup. C'est quand même compliqué d'être amoureux, Ali, non?
Merci beaucoup, Éric Libiot. Votre éloge du livre était un délice. Et c'était un délice de recevoir ce matin Colomb Schneck. Merci beaucoup, Michael Uras. Au petit mot, Les Grands Remèdes est publié aux éditions Prélude. Et merci, Régine de Tombelle. Les livres prennent soin de nous. C'est chez Actes Sud. Et votre prochain ouvrage paraît en janvier. Ça s'appelle 3X. Et je vous rappelle que ce week-end, Radio France fête le livre 200. Auteurs vous attendent à la maison de la radio avec plein d'événements pour fêter le livre. Tahar Benjelloun et l'invité d'honneur à suivre, Lamine Aghi et sa bande originale.